Bonjour, c'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve pour mon émission Alice et vous, chaque vendredi de 17h à 18h. Pour notre rendez-vous de cette semaine, nous allons aborder le thème de l'inconscient qui est si cher à nous, les psychanalystes. Et je suis certaine que Jennifer, qui est à mes côtés, va me poser une multitude de questions quant à ce concept crucial qui est si complexe.
Oui, si complexe. Bonjour Alice, aujourd'hui un thème vraiment qui va être complexe. On va essayer de faire la part de tous les thèmes qui vont se... parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer autour de l'inconscient. Donc je vais être encore une fois aussi bien votre interlocutrice, chers auditeurs, mais aussi une élève, comme vous le seriez, à ma place. Parce que vous allez voir que vous allez encore une fois aujourd'hui apprendre énormément de choses grâce à notre psychanalyste Alice. Qui, voilà, on va être dans son cabinet pendant une heure, voilà, tous les vendredis de 17h à 18h, vous allez voir, nous allons aborder ce thème-là de l'inconscient. Alors, est-ce que je suis inconsciente de parler avec vous, Alice?
Non, vous êtes très consciente, ça va vous faire beaucoup de bien, vous allez voir. Bon, allez.
Alors, l'inconscience, Alice, un mot qui peut être si général et toucher plein de thèmes, hein, cet inconscient. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet inconscient?
Alors déjà, on peut dire que l'inconscient, enfin, ce concept appartient vraiment au domaine de la psychanalyse, car nous ne pouvons pas parler d'inconscient sans parler de Freud, qui a développé autour de ce thème, on va dire, ses nombreuses théories. Déjà, premier point, l'inconscient est un concept psychanalytique. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'inconscient ? Alors, je vais être un petit peu technique au début de l'émission, simplement pour vous expliquer comment le concept a été posé, comment ça se joue, et après on développera, on va dire, tout ce vers quoi va nous amener cet inconscient. Alors, on est en 1900, Freud pose, on va dire, sa première topic, c'est-à-dire nous explique comment peut-être s'organise notre structure psychique. Alors, Freud dit que le conscient, c'est la partie visible de notre appareil psychique, c'est-à-dire ce sont tous nos choix, ce sont ce que nous vivons au quotidien, ce que nous disons, ce que nous assumons. Voilà, c'est notre conscient, notre histoire de vie. Freud nous parle également du préconscient. Alors, qu'est-ce que le préconscient ? C'est un peu compliqué, mais je vais décortiquer tout ça avec vous. Le préconscient, c'est ce qui n'est pas présent dans le champ actuel de la conscience, donc qui est plutôt du côté de l'inconscient, mais qui reste accessible. C'est-à-dire, ce sont des événements, des situations, des souvenirs que nous avons vécu, dont on ne se rappelle pas forcément tous les jours, mais dès lors qu'on veut y accéder, ils reviennent à la surface, donc ils reviennent au conscient. Voilà. Est-ce que c'est assez clair pour vous pour l'instant ?
Non. Non, là, franchement, bon, Alice, il y a une forme d'inconscience, mais il y a une forme de préconscience.
Et là, je vais vous dire ce qu'est l'inconscient, et puis comme ça,
ouais,
vous comprendrez peut-être mieux.
Ça va être un petit peu plus, oui.
Et par contre, l'inconscient est le siège des activités psychiques inaccessibles à la conscience, parce qu'il y a des forces de refoulement qui s'y opposent. C'est-à-dire que lorsqu'on vit une situation, on va dire si elle est positive, si elle est agréable pour nous, elle va rester accessible dans notre mémoire. Donc on va avoir un souvenir facile de se rappeler ce bon moment, peut-être que nous avons vécu avec nos parents, nos frères et sœurs, et peut-être notre compagne ou notre compagnon. Donc ça, on est dans le conscient. Il y a certains souvenirs ou certaines périodes de notre vie qui ont peut-être été moins importantes ou moins agréable, dont on ne veut pas se rappeler facilement. Mais dès lors qu'on nous dit « oui, est-ce que tu te rappelles de cette période de vie ? Ça va être à temps, je ne me rappelle pas. Ah oui, c'est vrai, maintenant qu'on en discute, ah oui, c'est vrai que c'était pas sympa, c'était pas agréable, mais je me rappelle qu'il y a eu cet événement. » Mais par contre, lorsqu'on vit des situations tragiques, dramatiques, traumatiques, où il peut y avoir des émotions négatives très fortes, qu'est-ce qui se passe ? La conscience va se poser la question de se dire, est-ce que cette personne déjà est prête à traverser cet événement de suite. Et si la conscience pense que non, hop, elle va envoyer ces événements, cette situation dans notre inconscient pour qu'on puisse être dans le déni, en quelque part l'oublier, pour que ce soit pas trop difficile pour nous à vivre.
On a vraiment cette on va dire, ouais, et cette technique, on va dire, qui est dans notre cerveau de manière donc inconsciente, ça on est bien d'accord, parce que ça, personne s'imagine qu'il y a des casiers de rangement à ce moment-là. En fait, c'est une forme de protection qu'on a, nous, dans notre état, dans notre conscience, qui nous permet, on va dire, de dire, bon, ben là, ok, tu peux t'en rappeler parce que c'est un moment agréable. Et pourtant, il y a des choses qui nous traumatisent et on s'en rappelle, Alice.
Alors, justement, c'est là ce que je disais. Peut-être qu'on s'en rappelle parce qu'à ce moment précis, on a été assez... Alors, j'aime pas dire fort. On est en capacité de vivre, de traverser cet événement, ce qui fait qu'il ne soit pas refoulé, qu'il ne soit pas oublié.
Ah, c'est parce que notre conscience nous sent apte à...
Tout à fait.
...gérer ce traumatisme, en quelque
sorte.
Tout
à fait.
D'accord.
C'est ce qui se joue.
C'est fou, hein, franchement, là. Entendez bien, cher auditeur, que franchement, notre tête, notre esprit est assez quand même bien fait. Hein.
C'est pour ça que ce concept est controversé. C'est pour ça que les gens m'ont senti psychanalytique et des gens ne croient pas au concept de l'inconscient parce que n'osent pas croire, ne veulent pas croire qu'effectivement, ben, notre structure psychique est réellement, on va dire... fondé ainsi, et ben, des gens qui sont plutôt dans le pratico-pratique et qui n'osent pas imaginer ou ne veulent pas se dire que finalement nous ne sommes pas complètement aussi acteurs de notre vie.
Alors là, ça c'est un autre sujet, Alice. On n'est pas acteur. Pourquoi nous le serions-nous ?
Alors, pour cela, je vais d'abord vous donner la définition que Freud lui fait de l'inconscient et après on va développer. Et c'est pour ça, c'est un fil conducteur, hein, pour nous emmener au fait de pourquoi on n'est peut-être pas si acteur que ça de notre vie. Selon Freud, l'inconscient désigne donc une partie de nous-mêmes, ou plus exactement une zone de notre esprit où sont stockées une foule de souvenirs, de fantasmes, de désirs inavouables que nous ne pouvons pas atteindre car il y a une résistance en nous qui s'y oppose. Ok. Par rapport à ça, on peut se rappeler du thème de l'Oedipe que nous avons abordé il y a quelques temps, de ce désir, on va dire, refoulé vis-à-vis de nos parents. Parce qu'en tant qu'adulte, on ne peut pas oser imaginer qu'on ait pu désirer nos parents.
Bien sûr.
Donc, comme c'est quelque chose qui est inconcevable, on le met, on va dire, quelque part dans notre esprit, donc, dans l'inconscient. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconscient finalement va uniquement nous faire répéter et reconnaître ce qu'il a déjà vu et connu déjà tout au long de notre vie. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur Terre, bon, au début tout n'est que ressenti et nous allons nous construire donc psychiquement, identitairement parlant aussi, et nous allons découvrir, on va dire, toutes les expériences et toutes les émotions de notre vie. À partir de là, au début, quand on est bébé, on fonctionne en mode binaire. C'est soit c'est bon, soit c'est mauvais. Donc, soit je suis content, soit je ne suis pas content. Mm-hmm. Et on va de plus en plus affiner nos sens. D'accord ? Donc, en fonction de ce qu'on a vécu déjà en tant que bébé, notre petite enfance, on va être attiré par telle personne ou telle situation de vie parce que cela va venir rappeler une émotion, une connexion que nous avons déjà eue en étant petit enfant. C'est-à-dire que quelquefois, on ne sait pas pourquoi, on va avoir un coup de foudre, même amical, pour une personne. Alors, est-ce que cette personne, nous allons l'apprécier parce que inconsciemment, nous allons peut-être reconnaître un regard qui a été déjà posé sur nous, une voix, une façon de se comporter avec nous, qui fait que finalement, cela nous rassure et avec laquelle on va se sentir bien de suite. Voilà.
D'accord. Donc, ça fait partie de l'inconscient, puisque... Ces événements-là que vous parlez dans la toute petite enfance, dans les premiers mois de vie, évidemment, nous sommes incapables à l'heure actuelle, comme on se parle, Alice, de se souvenir qu'est-ce qui nous a construit quand on était bébé et les souvenirs qu'on en fait. Mais ces choix, vous voulez dire que, comme vous disiez, là, un coup de foudre amical, comme je reprends votre exemple, il sera peut-être parce que, justement, à ces moments-là de vie, quand on était petit enfant, on aurait eu une rencontre qui nous rappellera un agréable souvenir, en quelque sorte, c'est ça ?
Tout à fait. C'est comme toutes les relations affectives. Ça, c'est la croyance de la psychanalyse hein, que nous mettons en place tout au fur et à mesure de notre vie. C'est que ça vient reconnaître quelque chose qui nous a fait... Alors, quand je dis qui nous a fait du bien, il faut que je sois claire, c'est quelque chose que nous avons connu et qui a pu nous rassurer à l'époque.
Oui, et qu'on a vécu positivement, que ça a été un moment de bien-être.
Alors, j'ai...
Non ?
J'ai pas envie de dire forcément de moment de bien-être, parce que vous voyez, si on parle le cas des enfants battus, mm-hmm. peut-être qu'ils vont se remettre en situation d'homme ou de femme battue, parce que c'est la façon dont ils ont été aimés par leurs parents. Même si c'est désagréable, finalement, c'est peut-être la seule façon dont on peut les aimer, et peut-être que c'est rassurant de remettre en place ce type de relation, parce que D'accord. ça va me ramener à cette attention.
C'est pour ça que vous me mettez en parenthèse voilà. bien-être.
D'accord. Les parents ont pu porter.
Et ça, ça fait partie de l'inconscient, Alice ? Quelque part ou...
Ah mais complètement. Parce que je veux dire, consciemment, je n'ai jamais entendu quelqu'un, peut-être que je me trompe avec un autre vécu, me dire je suis contente d'être à nouveau un homme ou une femme battue.
Et c'est le parcours qui... Je sais pas, ça paraît voilà un peu incrédible à se faire entendre une situation comme ça là, de se dire parce que on l'a vécu petit enfant, que c'est une presque une situation familière de la retrouver et de la rechercher quelque
c'est
part.
C'est ça, c'est ce que Freud appelle la compulsion de répétition, c'est-à-dire d'aller rechercher indéfiniment, de façon, on va dire, régulière, des sensations et ou des émotions qu'on a pu vivre en tant que petit enfant.
Pourtant, ces situations-là, bon, comme tout à l'heure je vous disais, il y en a certaines qui sont bienveillantes et qui procurent du bien-être, mais d'autres, comme vous étiez en train de l'évoquer il y a quelques secondes, ne sont pas des bonnes situations, donc des bons moments. Donc, si on les a mal vécues, si on a souffert, pourquoi les reproduire alors dans notre inconscient ?
On les reproduit, on va dire, tant qu'on n'a pas identifié la problématique déjà. Tant que ce n'est pas identifié, tant qu'on n'est pas au clair avec ces répétitions, ben nous allons continuer le même scénario. C'est à un moment donné où on va se poser la question de pourquoi je répète incessamment cette situation, pourquoi je tombe toujours dans ce type de relation, qu'on va réussir à identifier la problématique et faire en sorte qu'elle s'arrête.
Oui, parce que franchement, il vaut mieux que ça s'arrête parfois hein, quand c'est des
quand
situations...
Quand c'est négatif.
Hein, on est bien d'accord.
Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir quand on parle de l'inconscient, c'est qu'il dirige à la base 95% de notre vie. C'est-à-dire que quand on arrive sur Terre, nous ne créons réellement que 5% de nouveautés tant que nous n'avons pas travaillé sur nous-mêmes, tant qu'on n'a pas identifié, comme je dis, ces problématiques, des situations qui se répètent. Nous allons donc subir à 95% notre inconscient.
Alors, vous dites qu'on va subir à 95% notre inconscient. On en a déjà parlé dans le thème
du transgénérationnel, voilà, du transgénérationnel, de la psychogénéalogie.
Donc, on avait déjà évoqué ce sujet-là en disant que quelque part, on ne fait presque que reproduire une vie qui est faite déjà que lorsque l'on naît et de ce que l'on absorbe, de ce que l'on vit, mais aussi de presque du vécu de nos parents, en quelque sorte.
C'est ça. Parce que, comment ça s'explique ? C'est parce que l'inconscient fixe en termes d'émotions et, on va dire, ne fixe pas en termes de temporalité. Alors, je m'explique. C'est-à-dire qu'un événement que nous avons vécu il y a 6 mois, donc en fixation forte, un négatif, on va dire traumatisant, ou un événement que nous avons vécu il y a 25 ans, je veux dire, ne se range pas de façon chronologique dans notre inconscient. C'est on fixe l'émotion, ce qu'on a ressenti à ce moment-là, et cette émotion, quelque part, qui reste figée dans notre inconscient. Mm-hmm. Et c'est-à-dire que, comme l'inconscient est feignant, et qu'il ne va aller que ce qu'il reconnaît, et pas vers la nouveauté, nous allons incessamment remettre en place les mêmes situations et les mêmes relations.
Alors, Alice, là, dans l'inconscient, quand on parle de transgénérationnel, d'inconscient aussi qui a formé notre petit enfance et l'adulte que nous allons aller, vous dites qu'il y a juste 5% de nouveauté. Comment peut-on reproduire comme ça parce que dans l'enfance, tout à l'heure vous le disiez, il y a des émotions, il y a des choses que l'on reconnaît, dans lesquelles on se sent confort, qu'elles sont bien ou pas, ces situations-là. Admettons, on ne va pas aller dans les plus pires situations, mais on prend, voilà, C'est vrai que parfois on est attiré par plus de personnes que d'autres parce qu'il y a un visage qui nous semble agréable, familier, un comportement de ces personnes-là. Et comme vous dites, bizarrement, on est attiré par ces personnes-là. C'est parce que on a été marqué dans l'enfance par une personne similaire, aux traits similaires, aux comportements similaires, qui fera que, même en tant que vie d'adulte, je serai attirée par cette personne-là ?
Tout à fait. Et en plus de cela, il y a cette fameuse fidélité inconsciente qu'on peut avoir vis-à-vis de nos aïeux. Et c'est-à-dire que dans notre vie à nous d'aujourd'hui, on peut être attiré par une personne qui a pu marquer, on va dire, le roman familial. Peut-être, je dis un exemple, peut-être que mon arrière-grand-mère a été très amoureuse d'un homme avec lequel elle n'a pas pu, on va dire, s'épanouir ou vraiment être réellement en couple. Et peut-être que moi, dans ma vie d'aujourd'hui, de par ce drame que mon arrière-grand-mère a vécu, parce qu'elle a tant aimé cet homme avec lequel elle n'a pas pu faire cette vie, ben moi, je vais aller reconnaître un homme qui pourra avoir des traits, des comportements, peut-être un métier, du moins quelque chose en lien avec cet homme-là.
Mais ce n'est pas nous qui l'avons vécu. Vous parlez de notre, par exemple, de cet exemple-là, vous dites c'est notre grand-mère, hein, mettons, ou arrière-grand-mère. Mm-hmm. Comment on peut savoir ?
Parce que l'inconscient fixe en termes d'émotions fortes. C'est-à-dire que s'il y a eu quelqu'un, une femme, admettons, dans votre arbre, qui a vécu une histoire d'amour impossible, dont elle ne s'est jamais remise, donc elle a eu un chagrin d'amour, peut-être toute sa vie, elle n'a pas pu faire le deuil, c'est-à-dire que les générations suivantes peuvent être marquées inconsciemment par cette émotion. C'est-à-dire
Mais par quel mécanisme, Alice ?
Bah justement, par l'inconscient. Je veux dire, lorsqu'on arrive sur Terre, on a déjà notre propre histoire, on a déjà parlé, il y a l'histoire de notre conception, la grossesse, l'accouchement, et après l'environnement dans lequel on grandit. Mais pour revenir dans ces histoires de transgénérationnelles, si je suis en lien inconscient avec un de mes aïeux, donc peut-être parce que je porte le même prénom, peut-être parce que je porte une date en commun, peut-être sa date de naissance, peut-être sa date de décès, peut-être le fait d'être un homme ou une femme dans ma famille me mêlant avec elle, peut-être par le rang dans la fratrie, je vais naître avec mon inconscient qui va déjà être marqué par cette émotion que cette personne a pu ressentir. C'est-à-dire que, quelque part, il y en aura un espèce de fantôme qui se promènera à l'intérieur de moi. Et tant que je ne serai pas au clair avec ça, tant que je ne me rendrai pas compte, tant que je n'aurai pas verbalisé, ce fantôme restera. Et justement, ce qui fait que quelquefois, ces éléments qu'on appelle refoulés, donc qui sont dans le déni, hein, tombent aux oubliettes de l'inconscience, vont vouloir remonter à la conscience pour enfin voir le jour et peut-être réussir à réparer ou à libérer moi-même ou peut-être mon arbre familial.
C'est vrai que c'est à travers cette émission que d'ailleurs nous avions pu voir que parfois des histoires familiales se répétaient et que c'est vrai que ça paraît, on avait bien rassuré en disant qu'on n'était pas dans le spirituel ou les choses un petit peu plus farfelues, mais non, qu'on était vraiment dans le réel. Alors cet inconscient... est-ce que par exemple, je vous donne un exemple comme ça, peut-être ça n'a rien à voir. Par exemple, c'est beaucoup arrivé à des personnes et on est en voiture, on conduit. Mais en fait, on n'est pas là. On est en train de penser, mais en fait, on a le mécanisme de conduire. Est-ce que ça fait partie d'un inconscient ou pas, par exemple, Alice ?
Non, pas forcément. Là, alors...
Non, mais parce que des fois, et parfois, on a fait 10 minutes de cogitage, voilà. Entre guillemets. On se dit, j'ai avancé de
alors,
temps.
Alors là, c'est particulier, c'est plutôt un état de conscience. C'est-à-dire, je suis là, et quelque part, je comprends. Je ne suis pas là, je suis en mode automatique, je suis en mode robot.
C'est ça.
Ça, c'est plutôt peut-être un symptôme de ce qui peut se jouer dans nos vies actuelles. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis trop fatiguée ? Est-ce que, voilà, je suis...
Ça fait pas partie de l'inconscience, par exemple ?
Non.
D'accord.
Moi, je mets plutôt du côté du conscient, parce que j'ai une problématique dans ma vie consciente qui fait que je n'arrive pas à être réellement présente et disponible et concentrée.
D'accord, donc ça fait partie du conscient. Vous voyez comme c'est quoi ça. Pourtant on se dit qu'on est inconscient, puisque à un moment là, on fait juste un mécanisme de conduite.
Alors quand on dit qu'on est inconscient, ce moment-là, ça appartient, on va dire, au vocabulaire, on va dire, quotidien, fréquent de la langue française, peut-être... Comme je ne suis pas concentrée, je ne suis pas conscient. Au niveau psychanalytique, là, on n'est pas dans l'inconscient. Alors, qu'est-ce que c'est aussi la conscience ? C'est un état de l'individu qui sait qu'il est, où il est, ce qu'il peut faire. Voilà. Aujourd'hui, je suis consciente de ma vie, je suis consciente de la femme que j'ai, je suis consciente de ce que j'ai mis en place dans ma vie.
C'est ce qu'on dit, ce qui nous différencie des animaux souvent, Alice.
Tout à fait.
C'est qu'on a une conscience.
Et surtout le mode de pensée. Voilà. Qui nous différencie d'animaux. Et l'inconscient, finalement, et ce qui échappe à la conscience, c'est-à-dire qui désigne ce qui relève de processus dont nous n'avons pas le sentiment et dont nous ignorons qu'il se déroule en nous au moment où il se déroule. C'est-à-dire que j'explique que lorsque nous nous construisons lors de toute notre petite enfance, que réellement les symptômes pathologiques ou dysfonctionnels vont sortir à partir de notre vie d'adulte, c'est-à-dire que tout ce que nous avons vécu, même si nous allons consciemment l'oublier, vont être marqués, qu'on le veuille ou non, dans notre inconscient et dans notre corps.
On ne peut pas le contrôler en quelque sorte.
On ne le contrôle pas. Et c'est ça le caractère qui peut être gênant et dérangeant pour les personnes.
On est presque maîtrisé par quelque chose que nous n'arrivons pas à toucher.
Tout à fait. Et ce qui est compliqué dans ce contexte-là, c'est que l'inconscient n'est pas quelque chose de concret, quelque chose qui n'est pas vérifiable. On parle de structure psychique.
Alors j'ai envie de vous dire, il est notre ami cet inconscient ou notre ennemi ?
Moi j'ai envie de dire qu'il fait bien son job.
Ah ouais, parce que bon, il nous fait faire des choses peut-être qu'on n'a pas forcément aurait eu envie.
Voilà,
quoi.
Il peut être notre, je peux entendre qu'il peut puisse être notre ennemi lorsqu'il nous met dans des situations désagréables,
c'est
inconfortables.
Ça.
Mais moi, ma pensée est peut-être que je suis obligée de vivre ces situations et de ressentir ces émotions pour comprendre qu'il y a quelque chose à résoudre et pour me faire avancer.
Oui, mais encore, Alice, faut-il le comprendre cet inconscient, le toucher du doigt, l'identifier?
Voilà.
Bon, vous servez à ça.
Tout à fait, je sers à ça.
Voilà. Notamment parce que là, vous êtes toujours en train de nous justement
perturber
notre esprit et nos neurones, voilà, notre neurone, pour arriver à comprendre justement la complexité de l'humain, hein, vraiment en tant que tel. Mais est-ce que on prend alors conscience justement que l'inconscient finalement est presque plus puissant que la conscience?
Ah mais il l'est. Comme vous voyez, comme on parle du verbal et du non-verbal, lorsqu'on est en communication directe avec quelqu'un, on est en train de discuter physiquement, je veux dire, le non-verbal va représenter 80% de notre communication. Finalement, les paroles ne représentent que 20% de ce qui se joue dans une relation, en face à face.
Et souvent, quand on dit les gestes, les actes,
voilà,
et les paroles.
Est-ce que c'est cohérent, pas cohérent? Si la personne me dit quelque chose de gentil alors qu'un regard est énervé, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, tout ce qui se joue dans le non-verbal.
Bien sûr. Donc, cet inconscient bien puissant, vraiment.
Tout à fait. Et ce non-verbal relève bien évidemment de l'inconscient.
Ah, ça voudrait dire que presque on exprime quelque chose de conscient, mais qu'à travers notre inconscient, ça exprimerait l'inverse en quelque sorte.
C'est ça. Tout à fait. C'est comme lorsque je dis, de toute façon, lorsqu'on est une maman, on peut mettre notre plus beau rouge à lèvres, faire mettre notre plus beau sourire et avoir les yeux tristes. Ben, qu'est-ce que va retenir l'enfant? Il y a incohérence. Pourquoi maman, quelque part, oui, d'apparence, elle a l'air épanouie, mais je vois et je ressens quelque chose ne va pas. Et c'est ce qui ne va pas qui va plutôt peser à l'enfant que les 20% de ce que cette maman ou ce papa va nous dire.
Donc cet inconscient mettra plus en avant le véritable état que l'on est dans le sentiment, dans l'émotion que l'on est, et pas la mascarade du conscient d'avoir voulu masquer ces choses-là, en quelque sorte.
Ouais, Donc c'est pour ça que c'est pas un ennemi, l'inconscient, on va dire, comme vous avez dit, il est là pour nous protéger, pour éviter finalement de vivre des situations à la base, hein, lorsqu'on ne s'en rappelle plus, qui nous font du mal et qui sont difficiles à accepter. Et après la question, oui, mais bon, du coup, si c'est notre ami, pourquoi il me remet dans cette situation? Mais il me remet dans cette situation pour comprendre peut-être qu'il faut que ça s'arrête et qu'il faut évoluer.
Ouais, mais encore faut-il le comprendre. Encore faut-il en avoir conscience de cet inconscient.
C'est ça. Parce que c'est pour ça l'exemple que je prends souvent et voilà qui peut faire rire quand je veux dire. Une fois, je tombe sur une mauvaise personne. Deux fois et trois fois, c'est le même scénario qui se rejoue. C'est vraiment arrêter de se dire « mince, je n'ai pas de chance ». C'est plutôt de se poser la question « qu'est-ce que ça veut dire le fait que je tombe incessamment dans ce type de relation ?»
Bien, par exemple, dans l'entourage, on a déjà eu entendre dire que, mettons, une personne qui se remet dans des situations sentimentales compliquées, par exemple, si je prends une femme qui se met avec des mauvais garçons, elle répète ça une fois, deux fois, trois fois, mais on dit, de toute façon, elle aime ça, hein, franchement, elle se met toujours dans ces situations-là, on dirait qu'elle les cherche, ces types-là. Vous avez déjà entendu ça, Alice?
Ah, complètement.
On l'entend souvent, cette manière de dire, voilà, dire, mon Dieu, mais elle, de toute façon, ou lui, ne cherche que ces situations-là, que ces types de personnes-là, et donc c'est qu'elle doit le vouloir. Si elle le cherche.
C'est ça.
Alors c'est
que
quoi ?
Finalement,
c'est l'inconscient.
C'est que voilà, c'est l'inconscient. C'est que non, la personne ne le veut pas. C'est qu'elle est dans un mode de fonctionnement qui ne lui permet pas de faire autrement. mais c'est malgré elle, malgré cette personne.
Parce que justement, nous, quoi, la personne qui vit, bah, mettons cet exemple qu'on vient de dire, de retrouver toujours des mauvaises personnes, oui, elle va se dire, bah, j'ai pas de chance. Mais en fait, finalement, non. C'est presque on chercherait le type de personne qui correspond à chaque fois à la case.
C'est ça, c'est là où il fait son travail parfait, l'inconscience, qui va aller reconnaître quelque chose qui a déjà été connu au sein de la vie de cette personne.
Mais il est sadique, cet inconscient.
Non, il
Parce
est là.
Parce que si on est malheureux dans ces situations-là, Alice, vous voyez, je veux dire, si admettons avec cette personne-là, ce type de personne-là, à chaque fois, c'est un échec de relation, on vit très mal tout ça, donc on n'a pas envie. On est conscient qu'on n'a pas envie de ça, pourtant.
Mais il est là pour dire que maintenant, si tu n'en as plus envie, faut faire en sorte que ça s'arrête. Justement, si t'en as...
En le répétant.
Voilà, donc si t'en as si marre que ça... Il va falloir arrêter. Comme l'exemple que je prends beaucoup, que j'ai déjà utilisé, voilà, même ici à la radio, parce qu'à un moment donné, la vie, elle va nous mettre des petites claques. Enfin, l'inconscient va faire en sorte de nous mettre dans des situations de vie dans lesquelles on va prendre des petites claques qui sont pas agréables. Et si on comprend pas, le sens de ces petites claques, un jour, il va nous mettre un coup de poing, l'inconscient. Voilà. C'est-à-dire que si je ne comprends pas que je suis dans des mauvaises relations et qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, je vais tomber sur la pire relation inimaginable dans ma vie pour peut-être comprendre que là, j'ai peut-être quelque chose à aller voir chez moi, aller chercher chez moi pour que ces relations s'arrêtent. Vous voyez ? Et après, ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir, à un moment donné, comment cet inconscient communique avec nous, surtout comment il peut nous faire comprendre qu'il faille que ça s'arrête, qu'il faille qu'on ne répète pas ces situations. Donc, comment s'exprime l'inconscient ? C'est de différentes façons. Finalement, la question est... Comment ces éléments vont pouvoir remonter à la conscience pour que l'on puisse dire que, ok, maintenant il va falloir faire différemment. Donc ça, l'inconscient s'exprime à travers des actes manqués, c'est-à-dire l'air de rien, c'est oh là là, j'avais tant envie d'aller, moi, admettons ce qui se passe en quelquefois en patientèle. Des personnes qui oublient de venir, qui oublient mon rendez-vous. Pourtant, ils n'attendaient que ça, de venir me voir. Oui. L'inconscient a fait que, voilà. Les personnes ne viennent pas, mais quand je dis c'est une fois, on va dire ça peut arriver, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis tellement mal, je ne m'écoute tellement pas, je me laisse tellement, on va dire, manger par ma vie, par mon quotidien, que je suis même capable de me mettre de côté et d'oublier ce qui est bon pour moi. Voilà, ça c'est un acte manqué. Un exemple d'acte manqué aussi que j'utilise régulièrement. Bon, certaines personnes n'y croient pas, mais moi je ne dis que ce que je constate est vraiment mes croyances personnelles. C'est un exemple que je prends aussi régulièrement. Quand admettons quelqu'un va se casser la jambe le jour d'aller passer son bac, c'est-ce que je me casse la jambe ? Ouais, ça manque de chance, mais peut-être que j'ai quelque chose à comprendre. Et là, en général, on est plutôt dans le côté des fidélités inconscientes, dans la loyauté vis-à-vis d'une personne. Peut-être que mes parents eux-mêmes n'ont pas pu avoir le bac ou que dans ma famille, jusqu'à présent, personne n'a pu avoir une réussite, on va dire, des études hyper élevées. Donc moi, pour être en loyauté avec ma famille, je ne suis pas autorisée à aller plus loin qu'eux. Voilà comment ça peut se jouer inconsciemment.
Ça la semble, hein, les exemples
je
que
sais.
Vous donnez.
Hein, ouais. Après, il y a ces fameux lapsus. Voilà, lapsus verbaux, ou même à l'écriture, on peut faire des lapsus. Vous voyez, quand on se trompe de mot, on dit un mot pour un autre. Et ce qui va être intéressant, moi, en séance, je me pose toujours pour dire, voilà, un exemple de lapsus. Après, je dirais un exemple un peu rigolo, qui est facile à comprendre. C'est pourquoi, admettons, quelqu'un me parle de sa belle-mère, à un moment donné, il va me dire le mot chèvre au lieu de la belle-mère. Vous voyez, c'est drôle, mais ce sont des situations qui arrivent. C'est pourquoi, moi, à ce moment donné, j'ai utilisé ce mot. Pourquoi, lorsque je vais parler de ma mère, je vais dire ma fille ou ma sœur. Qu'est-ce qui se joue pour que, finalement, je ne la laisse pas dans son statut de mère et que dans mon inconscient ait besoin de dire que, oui, j'ai utilisé peut-être ma sœur ou ma fille, peut-être pour dire qu'effectivement, nous ne sommes pas alignés dans cette famille et qu'il faille, va dire, que chacun reprenne sa place.
Alors, cet inconscient, finalement... Si vous êtes en train de le définir comme vous le faites, on l'imagine plus comme un ami, finalement, qu'un ennemi. Même si parfois, il nous fait répéter des choses qui ne seraient pas agréables, mais comme vous dites, c'est pour presque donner la conscience que ce n'est pas agréable et qu'enfin, peut-être, il faut agir autrement. Des fois, vous dites, c'est par presque loyauté familiale de comme voilà, dans sa famille, ça s'est produit comme ça, alors presque, on souhaite conserver ce chemin. Mais C'est tellement difficile, Alice, parce que quand on vous entend en parler, on se dit « Ah, mais toi, finalement, Alice, elle a raison, mais c'est pas si compliqué que ça. » Mais en vrai, pas du tout. C'est dur de mettre un doigt sur cet inconscient.
Bien évidemment que c'est super compliqué. Je veux dire, c'est la partie la plus difficile aussi d'une thérapie, d'aller faire remonter, déjà de comprendre ce qui se passe, déjà identifier les problématiques quand il y a des répétitions, de dire « Ah oui, c'est vrai, c'est peut-être ça. » Et après, d'aller voir quels éléments refoulés veut refaire sortir l'inconscient pour nous les ramener à la conscience. Bien évidemment que c'est compliqué. Là, ils en parlent calmement, sereinement, mais c'est mon travail de tous les jours avec les personnes que j'accompagne.
Mais oui, quelque part, c'est vraiment la matrice à vous.
C'est pour ça quand je parle...
De toutes vos consultations.
C'est ça que lorsque je dis qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes toujours dans des rythmes de folie. Finalement, on passe à côté de nous-mêmes, on ne s'écoute plus. Et justement, c'est lorsqu'on ne s'écoute pas que l'inconscient va dire met en place toutes ces stratégies pour comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à aller voir et à résoudre. Parce que en tant que manifestation aussi inconsciente, il y a les rêves qui sont super intéressants. Voilà. En fait, qu'est-ce que c'est un rêve ? Un rêve, c'est finalement la réalité brutale de ce qu'on peut, on va dire... fixé, c'est-à-dire qu'un rêve peut être, on va dire, fort en émotion, peut être complètement insensé, mais finalement, c'est de cette façon-là que notre inconscient a fixé notre réalité. Vous voyez, quelquefois, ça part dans tous les sens. Mmh. Alors, bien évidemment, nos rêves se servent de notre quotidien. Voilà, il y a des rêves qui ne sont pas forcément... Quand je dis pas interprétable, mais peut-être pas si intéressant que ça.
Oui, quand on en a toujours un sens.
Parce qu'il peut avoir un sens avec ce qu'on a vécu la journée ou dans la semaine. Mais quelquefois, il est intéressant, les questions qu'on pose lorsqu'on travaille sur les rêves, c'est déjà, est-ce que le patient fait partie du rêve? Est-ce qu'il se voit en tant que personne ou est-ce que seulement il s'entend?
Extérieur, oui.
Voilà,
d'accord.
Est-ce qu'il se voit? Est-ce qu'il s'entend? Est-ce que les personnes qui font partie du rêve ont toutes... On va dire, est-ce que c'est toujours la même personne qui prend des rôles différents ou est-ce que ce sont des différentes personnes qui interviennent? Mm-hmm. Et c'est, on va dire, c'est très riche parce que finalement, les rêves sont vraiment la réalité brutale, ouais, vraiment de l'inconscient. Je peux pas, j'arrive pas à l'exprimer autrement.
Juste pour faire la parenthèse des rêves, il y a des personnes qui disent qu'ils ne se souviennent jamais de leurs rêves. Pourtant, vous êtes en train de dire que c'est la forme de l'inconscience qui est en train de s'exprimer à travers nos rêves. Mais pourquoi des personnes, alors, ne se souviennent jamais, ou quasiment jamais, de leurs rêves?
Voilà. Donc, il y a certaines personnes...
Ils les refoulent?
Aussi, voilà. Il y a certaines personnes qui ont des pathologies qui font qu'on ne se rappelle jamais de ses rêves. C'est-à-dire, quand on parle des personnes psychotiques, ils se rappellent très peu de leurs rêves, comme ils n'ont pas cet accès, vous voyez, déjà, ils ont une difficulté dans la vraie... réalité de la vie, ils ont déjà eux-mêmes leur propre réalité, donc c'est compliqué. Il faut surtout pas à la rigueur que ces personnes-là soient perturbées par leurs rêves. Et effectivement, et pour d'autres qui ne se rappellent pas de leurs rêves régulièrement, ça peut peut-être indiquer le fait de ne peut-être pas faire face à soi-même, de ne pas se remettre en question et de ne peut-être pas comprendre ce qui se joue. Mais c'est pas nous qui décidons de nous rappeler ou pas de nos rêves.
Oui.
Est-ce que pareil, c'est l'inconscient, parce que nous sommes censés rêver, on va dire, tous les jours.
Ben oui.
Et qu'est-ce qui fait qu'on s'en rappelle ou non? Alors, bien évidemment, quand on est en thérapie, on va venir un petit peu bousculer l'inconscient, ce qui fait, va dire que quelquefois les rêves reviennent. Bon, quelquefois, ce sont des cauchemars, hein, des rêves pas agréables.
Bien sûr.
Et là, on se dit, OK, on a compris, l'inconscient, ça y est, il met en marche quelque chose et il va vouloir venir s'exprimer. Bien sûr, après, on se rappelle des rêves agréables. D'où on a fait des super rêves, donc on ne veut jamais sortir. Hein. On est déçu quand on se réveille le matin, on se dit non, c'était pas vrai.
On voudrait s'y replonger.
C'est ça. Et après, il y a ces fameux cauchemars qui viennent nous perturber. Mais est-ce qu'ils se répètent, ces cauchemars? Est-ce qu'ils sont ponctuels? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas d'analyser, on va dire, de façon au premier degré, de façon brutale. Tiens, je sais pas, il y a eu un tigre qui est venu mordre ma mère. Enfin voilà, c'est pas ça. C'est qui est le tigre et qui est ma mère? Pourquoi c'est elle qui a été mordue? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Bon, il y a tout. Un fil conducteur, une élaboration à faire avec le patient lorsqu'on parle de rêve.
L'inconscient donc joue dans nos rêves, joue dans notre vie, joue un peu partout en fait, Alice. Dans quel autre domaine que ce que l'on vient déjà? Et je trouve qu'il a déjà pas mal sa place.
C'est ça. Et après, hein, dans les somatisations, les psychosomatisations dont on avait parlé.
Oui.
C'est-à-dire que lorsqu'on ne s'écoute plus, lorsqu'on ne veut pas comprendre la situation de vie dans laquelle on est, ben c'est le corps qui prend le relais. L'inconscient dit « Ok, aujourd'hui, tu n'es pas capable de comprendre et de saisir les éléments que je veux te faire remonter à la conscience, pas de souci. Le corps va prendre le relais et là, on va voir à partir de quand et jusqu'où tu vas te maltraiter pour comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à saisir. Donc, ce sont toutes ces somatisations. Donc, on a parlé la dernière fois, ça parlait du léger mal de ventre jusqu'à quelques fois même déclencher une maladie.
Des maladies parfois qui sont graves même, ne serait-ce. Oui. C'est vrai qu'on a tellement vu tout ça et on voit que quelque part, Alice, hein, tous les thèmes qu'on aborde ont généralement tous un point commun, ou en tout cas un chemin identique à un moment donné qui va mener à tous ces thèmes. Alors l'inconscient, voilà, là c'est vrai qu'on le voit dans les rêves, on le voit encore dans d'autres situations, en dehors de se dire aussi le mal-être physique, hein, parce qu'à un moment donné il va falloir s'exprimer. Donc c'est pour ça que des fois on dit les maladies de peau et comme vous disiez plein d'autres choses. Dans quoi il peut s'exprimer encore d'autres, Alice ?
Après, autre chose, ce sont les situations répétitives. Voilà, il nous fait répéter jusqu'à ce qu'on comprenne que cette répétition n'est peut-être pas nécessaire et utile à notre vie et qu'il faudrait que ce soit différent. Et après, on va dire ce qui est aussi le point positif, hein, lorsqu'on travaille sur soi et qu'on identifie et qu'on arrive à se libérer de notre inconscient, c'est qu'on va libérer également nos enfants, soit qui sont déjà nés ou à venir. Parce que nous, on se repositionne, on prend un regard différent, donc une façon d'être différente, et même sans en parler à nos enfants, il y a cette connexion inter-inconscient qui se met en place, et même si on n'en parle pas à nos enfants, eux-mêmes vont se repositionner et prendre une place différemment, et peuvent être libérés de tout ce qu'on arrive à ne plus répéter.
Voilà, oui, vraiment, ça laisse sans mots, hein, de dire que notre inconscient, dans nos actes du quotidien, pourrait même influencer les futures générations. Est-ce qu'on pourrait se dire que une personne qui est dans une vie où il n'est pas heureux, alors heureux, ça veut tout dire et rien dire, hein, mm-hmm. Alissa, quel exemple je pourrais vous donner dans le sens de dire, admettons, on prend une personne qui est dans une relation sentimentale très compliquée, où il n'est pas heureux, où ça ne va pas, etc. Et les choses font quand même qu'on a des enfants. Le fait d'être installé dans ça et que notre inconscient nous dit, mais regarde comme tu es pas heureux, change tes choses, mais nous on continue parce qu'on s'est donné le vecteur de continuer parce que c'est... On a envie de tenter, de continuer pour que nos enfants aussi n'aient pas à vivre une séparation de parents, etc. Donc tout ça, même si notre inconscient peut-être nous fait des signaux, mais qu'on ne comprend pas, on vit mal, alors après ça peut aller à des dépressions, tout ça, ça peut engendrer tout ça.
Et c'est exactement ça, lorsqu'on est dans une situation de vie qu'on n'ose pas affronter ou se mettre face à cette situation, de comprendre pourquoi il y a ce mal-être. Effectivement, c'est quelque part, c'est... on est en conflit avec entre soi-même. C'est une expression que j'utilise beaucoup, c'est on nage à contre-courant. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation qui était censée être celle qu'on aurait
espéré,
qu'on aurait dû peut-être même vivre et connaître. Et effectivement, il peut y avoir une espèce d'épuisement physique et mental. Et on se rend malade. Et bien évidemment, lorsqu'on est plus fragile psychologiquement parlant, le corps le devient aussi plus fragile.
C'est cet inconscient que on ne prend pas peut-être assez en considération. Là, quand on vit une situation comme je viens de vous donner en exemple, quand on va avoir des enfants, ça pourrait donner quel schéma dans l'inconscience de nos enfants plus tard ?
C'est-à-dire qu'on est en couple, ça se passe pas si bien que ça, on reste quand même, des enfants. Dans l'inconscient, il y aura la fidélité déjà vis-à-vis des parents, de se dire si je vis avec des parents qui ne sont pas équilibrés par eux entre eux, peut-être que moi je ne vais pas m'autoriser à avoir une relation amoureuse épanouie et heureuse, en fidélité par rapport à mes parents et par rapport à ce que j'ai vu, parce que peut-être je vais penser que c'est comme ça qu'on s'aime. L'enfant peut répéter.
Vraiment, ça peut ça peut aller jusque là quand même. Et ouais, c'est voilà, chers auditeurs, l'inconscient à quel point influencé d'une part votre vie et aussi celle des générations futures, donc vos enfants. Alors afin qu'il soit notre ami, puisqu'il nous veut du bien, cet inconscient Alice, eh bien on n'est pas tous en capacité de bien le comprendre, de bien le gérer. À quel moment, si tout va bien, tout va bien, mais à quel moment on peut se dire que cet inconscient est en train d'essayer de nous montrer, de nous alerter.
Quand on peut se poser la question de ne pas comprendre le sens de notre vie. Ne pas comprendre pourquoi quelquefois on en est là. Que ce soit en termes professionnels, que ce soit en termes de relations amoureuses, familiales, amicales. Quand il y a une sensation aussi de non-sens. De dire mais je comprends rien quoi. J'ai tout mis en place pour que tout se passe bien. Et malgré tout ça ne va pas. Ce n'est pas forcément que de la faute de l'autre. Et comme on va aller chercher des personnes aussi qui s'imbriquent bien avec notre propre inconscient. C'est-à-dire on a des problématiques, donc on va aller chercher cette personne pour venir nourrir nos problématiques, mais vice-versa également. C'est-à-dire que cette personne va être bien avec nous, malgré le fait qu'au quotidien ça se passe pas bien, parce qu'on va venir aussi combler ses failles, ou peut-être venir titiller son inconscient pour que cette personne aussi en face de nous comprenne qu'il y a quelque chose à régler ou à faire avancer dans sa vie personnelle aussi.
Ouh là là. c'est pas une séance qu'il nous faut, Alice. C'est 12 séances minimum. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de dire que presque l'inconscient de deux personnes se font miroir face pour révéler en l'une et en l'autre.
Ah, mais complètement, ça ne fonctionne que comme ça.
Alice, rassurez-nous.
Non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose forcément de négatif. Quelquefois, on doit traverser des épreuves ensemble, des situations. Et moi, ma croyance, c'est vraiment, et qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette relation? Ok. Est-ce que je vais réussir à la dépasser? Si je la dépasse pas, peut-être que je vais me séparer de cette personne. Ou peut-être que si justement j'arrive à aller plus loin, peut-être que j'aurai réglé quelque chose avec moi. Et ça y est, je me serais défaite d'une partie aussi de moi qui ne m'appartient pas quelque part, car ça ne devait pas être comme ça. Parce qu'il y a cet inconscient qui vient nous tracasser dans notre vie tous les jours, mais avec notre histoire personnelle qui nous appartient. Et si on reparle dans le transgénérationnel, après, il y a des actes symboliques, il n'y a rien d'ésotérique dans les actes que je propose, pour nous libérer de ces histoires dont nous n'êtes pas responsables et dont nous ne sommes pas responsables, et surtout dont on ne connaît même pas l'existence et par... malheureusement qui viennent, on va dire, perturber notre quotidien.
Et oui, ils viennent perturber notre quotidien, parce qu'on l'avait vu avec ce thème de se dire qu'une arrière-grand-mère, alors que sûrement qu'on l'a pas connue, ou un arrière-grand-père vient influencer la manière dont on fait nos choix de vie, et ça nous avait vraiment surpris dans ce sujet-là, et on est encore surpris de l'importance de l'inconscience aujourd'hui. Et puis ça me choque ce que vous dites, un effet miroir, franchement, que presque l'un renvoie un truc à l'autre, c'est pour se faire des signaux, presque contre notre inconscient n'est pas en train de nous dire bah, tu te rends compte que toi ça va pas là, et non mais tu, en fait c'est à travers l'autre qui va te le dire aussi, donc vraiment Alice,
et c'est pour ça aussi quelquefois qu'il est difficile de se séparer ou de mettre fin à une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou autre, avec une personne, parce qu'il y a cet inconscient quelque part. Ça lui, il nous fait répéter, et c'est difficile aussi de se dire, lui là-haut, de vouloir faire autrement. Quelque part, notre ami, en disant, regarde, la fidélité inconsciente est là, la loyauté, donc tu vas revivre la vie, on va dire entre guillemets, que ce soit professionnelle, amoureuse, amicale, familiale, de tes ancêtres, mais dans ta vie à toi, je vais venir te faire reconnaître les émotions que tu as déjà ressenties. Et tant qu'on n'identifie pas et qu'on ne se met pas face à soi-même, finalement, on ne peut pas envoyer cette nouvelle croyance à notre inconscient. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quelque part, lui, c'est comme si on avait une machine qui fonctionnait toujours, on va dire, de gauche à droite. Voilà, elle tourne de gauche à droite. Et nous, quand on va identifier la problématique, on va dire non, maintenant, il faut qu'elle aille de droite à gauche. Et ce travail de fond qui est compliqué d'envoyer à l'inconscient le nouveau message de dire que maintenant, ça va être autrement. Je reprends ma vie en main, je l'identifie, je vais me libérer. Et par contre, toi, là-haut, tu vas commencer à fonctionner différemment. Et c'est ça qui peut être perturbant et donner aussi des situations douloureuses quand on est en thérapie. C'est d'être objectif, de se dire que...
Oui, parce que ça peut être un véritable choc au final.
Ah, mais c'est ça, de se dire finalement, la roue, elle a toujours tourné de gauche à droite parce que c'était mon mode de fonctionnement.
Bien sûr.
Mais finalement, je me rends compte qu'elle aurait dû, finalement tourner dans l'autre sens.
Et là, c'est le contre-pied qui est...
Voilà, c'est l'image qu'on peut donner lorsqu'on met le point sur peut-être une famille dysfonctionnelle, l'objectivité qu'on peut avoir sur des situations, des relations qu'on a vécues, de dire, ok, ça a été comme ça, mais en fait, j'ai toujours été à côté, quoi. Et c'est ça qui est hyper dur et compliqué dans la thérapie.
Et inverser la vapeur, c'est pas toujours évident. Et puis, vous êtes là pour ça, souvent dans l'accompagnement, pour mettre mettre en évidence
ce qui se joue.
Et oui, quand on se sent pas bien dans des situations et de se dire pourquoi vous vous sentez pas bien, comment les identifier. Et puis, il y a tellement de choses finalement à travers l'inconscient. On a vu que, entre le complexe d'Œdipe, le transgénérationnel, finalement, il intervient dans beaucoup de choses, Alice.
Bah oui, comme je vous dis, à la base, les chiffres sont différents selon les chercheurs et selon voilà, les spécialités, les spécialistes. Mais on est autour de 90 ou 95% de notre vie, quoi, de maîtrise à la base de notre vie. Donc on ne maîtrise rien, on ne crée que 5%.
C'est rien, quoi, 5% non, dans une vie.
Et c'est pour ça que plus on travaille sur soi, plus on rééquilibre, on va dire, ces chiffres.
Eh oui. Eh oui. Bon, ben Alice, elle est là pour ça. Alice, sur quel autre sujet sur l'inconscience on pourrait encore dire?
On pourrait développer. Ouais. On va dire aujourd'hui la bonne nouvelle. Il y a un nouveau domaine, un nouveau concept qui a depuis une vingtaine d'années qui s'appelle l'épigénétique. Je ne sais pas si on en a déjà parlé lors de ces émissions. L'épigénétique est la croyance, justement, qu'avec un nouveau mode de pensée, un nouveau mode de fonctionnement psychique et pas que. Aussi physique, on peut justement arrêter ce qui s'est joué jusqu'à présent dans nos modes de pensée, notre inconscient, et faire différemment. On va dire, c'est un message porteur d'espoir qui dit que pas parce qu'il y a eu ces événements traumatisants qui ont été vécus dans une famille que ça va perpétuer. Justement, c'est la croyance qu'en en prenant conscience, qu'en modifiant nos modes de pensée, nous pouvons le faire différemment. Et dans ce concept d'épigénétique, on a aujourd'hui également les neurosciences, la neuroimagerie médicale, qui vient avérer tout ce qui se dit au niveau de ces répétitions inconscientes, incessantes dans les modes de vie. Alors, bien évidemment, les expériences, observations ont été faites sur des traumas, on va dire, qui sont pas du tout peut-être faciles à entendre et à vivre. Quand on parle en termes d'inceste, c'est-à-dire que aujourd'hui, il a été avéré qu'une personne qui vit un inceste va venir modifier son ADN, c'est-à-dire qu'une espèce de cicatrice qui va se poser dans l'ADN. Et il a été vérifié que si ce ne sont pas les enfants, peut-être les petits-enfants, voire les petits-enfants, vont naître eux-mêmes avec cette même cicatrice dans l'ADN sans eux-mêmes avoir vécu cette situation dramatique. Donc c'est-à-dire que tout ce qui se dit au niveau du concept inconscient vient s'avérer depuis maintenant une dizaine, une vingtaine d'années avec ces observations, on va dire, de la neuroimagerie médicale. C'est comme des personnes, je suis désolée d'en parler encore, en termes d'abus sexuels, toujours d'inceste qui ont été vécus, avec une partie du cerveau qui s'éteint, voilà, qui se met à ne plus fonctionner. Ben, il a été avéré que effectivement la descendance, que ce soit pas forcément directe, pas forcément les enfants, mais quelquefois les descendances de ces familles naissent elles-mêmes avec cette partie du cerveau éteinte. Et après, en l'identifiant, on peut le réactiver et fonctionner différemment. On va dire, c'est ça le côté positif. Aujourd'hui, je ne suis pas là en train de dire, attention, l'inconscient fait que finalement, on maîtrise en rien notre vie et qu'on va subir notre vie. Non, c'est justement, c'est pour ça que je conseille à tout le monde, à mon avis, de faire une pause dans sa vie, d'oser se mettre face à soi-même pour dire, ok, où j'en suis et finalement, quel est le message ou les messages que m'ont envoyé mon inconscient jusqu'à présent. C'est pas une fatalité de dire c'est comme ça et ça le sera pour toujours, non. C'est si moi je suis mal dans ma vie, mal dans une situation, ben, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, quel sens à y donner pour pouvoir faire différemment.
C'est vraiment ça. Faire évoluer les choses en quelque sorte.
Tout à fait.
Que rien n'est figé.
Tout à fait.
C'est surtout ça. Alors après, si on est heureux que tout va bien,
on n'y touche pas. Comme je dis, moi, les moi,
je suis pas obligé de.
En question. Si vous êtes dans des répétitions et que ces répétitions vous conviennent, ben ne changez rien.
Bien sûr,
je veux dire, c'est si ça vous met dans un inconfort, dans une situation, on va dire de mal-être et de souffrance. C'est quand il y a une souffrance qu'effectivement on peut envisager de faire autrement. C'est de ça dont il s'agit et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui.
Et alors, si on est on peut prendre le cas, parce que vous me faites penser à quelque chose en disant ça, des gens qui sont pas bien, qui font un arrêt sur vie et qui disent, bon, mais là, j'en suis là, qu'est-ce qui me rend malheureux et qu'est-ce que, voilà, de faire un point et d'autres, si tout va bien, continuer dans ce rythme-là. Mais il y a des personnes qui pourraient, je dis bien pourraient parce que vous allez me répondre si c'est possible ou pas, être heureuses, elles, en tant que telles, mais autour d'elles, rendre malheureux. Ah, parce que par leur comportement, elles, tout va bien. Elles se sentent heureuses. Elles savent parfois qu'elles font du mal. Alors, je ne parle pas de violences physiques ou quoi. Hein. Ça peut être des violences, entre guillemets...
Verbales.
Ou psychologiques, en quelque sorte. Parce que par des actes, par des choses, on fait souffrir des personnes. Parce que, je ne sais pas, des manques. Voilà, des manques, qu'on a des manques. Est-ce que ces personnes-là qui font subir à d'autres dans leur entourage familial, ça peut être, par exemple, des enfants qui s'en foutent un peu des parents et qui, dans leur relation sentimentale, sont un petit peu comme ça aussi, mais eux, ils le vivent très bien. Vous voyez ? Mais que, quelque part, Les autres, par contre, ne le vivent pas bien.
C'est ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément conscience lorsqu'ils disent ou font ces actes qu'ils font du mal.
C'est ça.
Parce que c'est pas quelque chose qui émane d'eux, il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas de stratégie. Alors oui, effectivement, on peut avoir des comportements inconscients, malgré nous, qui peuvent faire mal aux autres. Alors ça, soit ça relève d'une pathologie, quelquefois, un dysfonctionnement dont on n'a pas conscience, ou quelquefois, ces actes peuvent être dus, là on est complètement dans l'inconscient, à des pulsions archaïques. C'est-à-dire que ce qui a pu être vécu dans l'enfance, des situations qui n'ont pas été agréables, et dramatiques, on va dire, ont été refoulées, on a travaillé, même si on a travaillé dessus, il y a des résidus de ces histoires. Et effectivement, lorsque ces éléments remontent à l'inconscience, ils ressortent d'une façon brutale et complètement désorganisée, qui font qu'on peut être face à des personnes qui ont des comportements aberrants ou des paroles blessantes, malgré elles. Alors là, dans ces cas-là, si après coup il y a une possibilité de discuter avec la personne, si la personne doit dire qui malgré elle a fait un acte ou une parole mauvaise, c'est d'oser le poser quand tout est calme, quand quelque part la personne est sortie de cette pulsion. Et si cette personne, on va dire, est bienveillante et on va dire plutôt bien structurée et équilibrée, cette personne peut faire un travail sur elle si elle le souhaite, parce qu'elle se rend compte qu'elle fait pour qu'elle le veuille. Si c'est parce qu'il y a des personnes qui vont réagir inconsciemment, mais dont ils ne vont pas du tout mesurer l'importance des conséquences en disant « Écoute, j'ai pas fait exprès, c'est comme ça et c'est tout. » Par contre, il y en a qui vont vraiment ressentir et capter, intégrer le mal qu'elles font inconsciemment. Et ces personnes-là, effectivement, je peux les retrouver en thérapie où ils peuvent améliorer leur...
Voilà, je vous parle pas
vous avez raison.
Je vous parle pas du plus grave.
De drame.
De violence physique, etc. Ou de pervers narcissique. Mais parce qu'il y a des personnes, parfois, qui ne se rendent pas compte qu'elles font du mal, parfois. Voilà.
Donc après, c'est en fonction de la réaction de la personne à intégrer que c'est pas...
Volontaire.
Normal, le type de comportement. Et si cette personne a cette possibilité de culpabilité, et de remise en question, qu'elle va pouvoir effectivement évoluer. Ça, c'est des choses que j'ai pu voir quelquefois en thérapie de couple ou autre. Et c'est vraiment malgré soi qu'on a ce type de comportement. Et si vraiment la personne est empathique, bienveillante et plutôt bien équilibrée à la base, malgré ce qu'elle a vécu, c'est possible aussi de le modifier. Mais pas dans tous les cas. Voilà.
Pas dans tous les cas. Mais en tout cas, je voulais vous demander ça parce que ça fait quelque part appel à de l'inconscient. Parce que quand vous avez dit posez-vous à un moment donné et réfléchissez, mais c'est parce que parfois, il n'y a pas tout le monde qui a conscience que ce qu'elle fait ou ce qu'elle vit peut-être mal vécu par d'autres. Ça, c'est sûr. Ali, je pense qu'on a abordé un petit peu tout le sujet de l'inconscient, franchement. Et moi, vous m'avez retourné la tête.
À nouveau,
comme chaque vendredi, mais tellement intéressant, tellement marquant, franchement, quand on voit à quel point l'humain est fait et à quel point notre inconscient, finalement, ne le prenez pas comme un ennemi. Envie de vous dire.
C'est de dire tous les signaux. De toute façon, l'inconscient nous fait travailler sur nous-mêmes, nous envoie des signes. Vous voyez, même quand on parle en termes de mémoire traumatique, quand on se dit pourquoi telle personne ne se rappelle pas de telle ou telle période de vie, c'est que l'inconscient a bien fait son job. C'est qu'il a dit « Ok, tu ne t'en rappelles pas, mais c'est bien que tu te rends compte que tu ne t'en rappelles pas parce que peut-être tu vas aller pouvoir voir ce qui s'est passé pour te réparer et te guérir et te libérer. »
Et on l'a souvent vu dans n'importe quel thème qu'on a pu aborder depuis cette rentrée, où souvent des personnes ne se souviennent plus, ont annihilé complètement une partie de leur vie. Alors souvent on mettait ça dans la jeunesse, mais parfois même dans des périodes où le conscient est bien présent, il y a barrière.
C'est ça, en termes de trauma.
Ouais.
Les éléments, on va dire, basculent dans l'inconscient pour que vraiment la personne puisse oublier, renier, dénier cette histoire de vie à ce moment précis parce que c'était, sinon, on va dire, il y avait peut-être risque de décompensation psychique.
Et oui. Et donc là, c'est là que notre inconscient, il est bien sympa peut-être. Hein,
voilà.
Il est bien notre
tout à ami. Fait.
Alice, en tout cas, si on a envie de mettre le point sur notre inconscient, que finalement, il nous envoie des signaux, des alertes que, eh bien, on n'a pas conscience, je pense que ce travail peut réaliser et se faire avec vous et d'autres professionnels.
Tout à fait.
Vraiment, toujours dans la bienveillance,
dans le non-jugement, dans l'accompagnement.
Voilà, dans la construction aussi, peut-être d'un futur plus...
favorable, plus agréable.
Plus serein.
Moins douloureux.
Voilà.
Au moins de
ça. Parce que tant qu'à faire, si on peut vivre, vivre heureux sans souffrance. Ah, c'est pas mal quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça.
Allez, ouais. Alice, pouvez-vous, s'il vous plaît, avant que l'on se quitte, rappeler les coordonnées de notre précieuse Alice?
Avec grand plaisir. Donc, vous pouvez me retrouver déjà à mon cabinet de Saint-Cyr-sur-Mer et également à mon cabinet d'Avignon. Pour me contacter, vous pouvez le faire soit par téléphone ou au 06 48 72 79 97 ou également via ma page Facebook, Alice Lecomte Psychanalyste. Bon, j'ai aussi une page Instagram que j'essaie de nourrir tant bien que mal, donc qui est Alice Lecomte Psy, sur laquelle vous pouvez retrouver toutes mes actualités, donc dont ma formation de psychogéologie que j'ai enfin lancée, qui a démarré et que je vais proposer régulièrement tout au long de cette année.
Et ça, je vous raconte pas le sujet comme il est hyper intéressant, on l'a déjà évoqué ici, et je sais qu'il a bien intéressé nos auditeurs, et si vous avez envie de approfondir encore tout cela, bien grâce à ces séances-là, vous pouvez les faire. Donc retrouvez tout avec Alice Lecomte, et puis moi je ferai toujours l'intermédiaire comme d'habitude. Je serai là pour ça.
C'est Alice, très gentil.
Merci à vous.
Merci
très
à vous.
Très belle soirée, très bon week-end, et merci de nous faire du bien.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Bye.